Donc David est sociologue au Centre de sociologie d'innovation. Il travaille sur les questions d'écriture. Alors les socio-anthropologues, au mine, on est autant anthropologue que sociologue. Et donc il est vraiment question de l'observation et notamment des pratiques et des infrastructures ou des outils.
Donc bonjour, merci pour l'invitation, pour le marathon apparemment. Donc, ce que je vais essayer de faire en quelques minutes, c'est en revenant sur un certain nombre de choses qui ont été dites, malheureusement, je vais essayer de le faire d'une autre façon, c'est d'aborder une question qui, moi, me semble être une des questions qui est au cœur des transitions ou du mouvement Open Access, qui est celle de l'adéquation entre des technologies d'évaluation et le cercle des pairs qui est dessiné par ces technologies. Donc, en gros, quel type de technologie d'évaluation dessine un cercle des pairs plus ou moins restreint, plus ou moins élargi. Donc, pour aborder la question, évidemment, il faut en venir à il y a un problème d'écran qui est, c'est pas grave. Donc, en venir à la première forme dont on a déjà parlé ce matin, qui est l'évaluation par les pairs, qui peut être un marathon de ce type, où au fond, là-bas, vous avez le papier accepté, mais avant, il faut passer par les épées, les gourdins, les haches des évaluateurs. La valeur qui est mise dans ce modèle, c'est que l'expertise, elle est réalisée par des spécialistes qui sont à même, comme on nous l'a rappelé dans la planche précédente sur SJS, un jugement sur la qualité. Et donc, ces pairs sont des spécialistes, ils sont très peu nombreux et ils opèrent en chambre. Donc ça, c'est la valeur de ce jugement et de cette expertise qui est mise dans l'évaluation par les pairs. Je ne vais pas m'étendre sur les critiques, elles sont très nombreuses, il y a une grande littérature dessus, ça prend trop de temps, les évaluateurs ont des biais subjectifs, il y a tous les enjeux qui sont autour de l'anonymat. Là-dessus, il y a aussi beaucoup de littérature et ça rejoint une question qui a été abordée ce matin sur les cultures ou les différences entre milieux scientifiques ou entre le single blind et le double blind, l'open peer review sur lequel je viens de revenir. Il y a tout un tas de justifications et, encore une fois, de conventions qui sont très différentes et justifiées de manière très particulière selon les milieux scientifiques. J'en profite pour placer un argument un peu gender. La question du double blind en économie a été très fortement revue suite à des mouvements féministes qui montraient comment, quand c'était seulement single blind, les femmes étaient constamment mises à l'écart. Donc peut-être une question à aborder aussi avec l'open access, une question qui n'a pas encore été abordée sur la question du genre. Bref, je passe à autre chose qui n'est plus l'évaluation en sciences, mais l'évaluation scientifique, puisque ça aussi, on en a beaucoup parlé. Dans les années 50, il y a des métriques qui sont mises en place. Donc, je ne reviens pas là-dessus, mais souvent en caricature, mais en gros, Garfield, ce qu'il a fait, c'est quand même, il n'est pas sorti comme ça de nulle part. Il s'est fondé sur une longue tradition en sciences de la documentation. Et avant qu'il nous invente son facteur d'impact, il y a une mesure qui est toujours là, qui est très importante, c'est le nombre total de citations. Et qui est quand même quelque chose d'assez différent de la métrique qui est le facteur d'impact. Alors là, pour les défenseurs, bien sûr, c'est une approche objective, scientifique. Pour d'autres, c'est une approche scientiste qui met au carré en fait la valeur scientifique dans des outils qui seraient eux-mêmes scientifiques. Alors moi, ce qui m'importe pour le point, c'est que dans ce monde-là, les pairs, quand on est dans ce monde des métriques et du facteur d'impact, les pairs, ce sont des auteurs d'articles qui citent d'autres textes, donc des articles ou des livres, dans des revues dites centrales, donc celles identifiées grâce aux facteurs d'impact et aux Journal Citation Reports. Alors quand même quelques critiques sur cette histoire. Rappelez quoi, brièvement, le facteur d'impact s'appuie sur un jeu de données qui, dès les années 70, a été critiqué pour son périmètre, puisque en fait... pour tout un tas de disciplines, notamment SHS, mais pas seulement, il y avait une couverture très minoritairement, enfin très majoritairement anglo-saxonne, et qui excluait une diversité linguistique, de concepts, de portée des objets et des audiences d'autres pays. Il y a eu une critique plus générique, un peu plus tardive, qui était sur le fait que c'est devenu un jeu de données privé, et donc la fiabilité était incontrôlable, puisque non accessible et non publique. Et puis beaucoup plus récemment, même si c'était au cœur des débats qui auraient pu être là tout de suite, c'est une critique de l'algorithme même, puisque le facteur d'impact est une moyenne faite sur une distribution de puissance, Et donc, pour faire très vite, vous avez très peu d'articles qui contribuent à faire le facteur d'une revue, et quand d'autres, en fait, ne contribuent pas à la fabrique, puisqu'on est sur une moyenne. Et donc, il y a eu tout un mouvement, notamment par l'International Mathematical Association, pour démonter mathématiquement, encore une fois, cet algorithme. Je ne développe pas sur tous les usages détournés et les sanctions développées par Thomson autour des citations coercitives faites par certaines revues pour augmenter leur facteur d'impact, par les cartels de revues qui ont été identifiés, qui font qu'elles augmentent les facteurs d'impact de manière bilatérale les unes envers les autres. Et Thomson Reuters se positionnant là non plus en instance de délivrance de métriques, mais carrément en instance de police, puisqu'elle met au piquet les revues. Elle les exclut pour 2 ans d'avoir un facteur d'impact. Tout ceci pour dire que vous avez également des arguments très forts pour dire que si vous dites le mot facteur d'impact quelque part dans un CV pour juger une revue, vous êtes statistiquement illettré. Donc, je ne voulais pas faire spécifiquement le procès de ces choses-là, mais c'était pour dire qu'il y avait quand même un certain nombre d'arguments possibles à déployer pour ceux qui veulent, qui sont tout à fait disponibles. Autre élément, peut-être plus en rapport avec ce qui est attendu aujourd'hui, c'est cette étude par des copains, des collègues scientomètres de Québec, qui ont bien montré comment, à partir des années 90, la distribution des citations dans les revues donc indexées par Thomson et qui ont un facteur d'impact, cette distribution était de moins en moins corrélée avec justement le facteur d'impact. Et donc, l'argument important, c'est la montée d'Internet, des entrepôts, des archives et les autres voies de circulation et de diffusion des productions qui, bien entendu, là, ne sont plus indexées sur la revue, mais sur l'article même. Je vais y revenir. Alors, non seulement dans ce mouvement, on assiste au développement d'autres mesures, donc là, bien sûr, le H-index, mais il y en a tout un tas d'autres, qui, pour le coup, pour celle-ci, n'est plus indexée sur la revue, comme le facteur d'impact, mais sur la valeur qui cherche à subsumer sous un nombre entier la valeur d'un chercheur individuel. Et donc, on a une mesure qui est complètement détachée des revues, et là, l'évaluation se concentre encore une fois sur les auteurs individuels, quel que soit le nombre de co-auteurs, quel que soit le type de production dont on parle. Donc on est plus attaché à l'article dans une revue, ça peut être tout à fait autre chose. Et donc là, le cercle des pairs avec ce genre de métriques, ce sont des auteurs de documents, académiques ou para-académiques, qui sont pris en compte, notamment avec l'appariement du H-index sur le jeu de données Google Scholar, qui a donné lieu à cet outil par Anne Willarsing, qui est une professeure de management, qui a mis en ligne ce petit outil qui permet de calculer le H-index individuel, encore une fois, de coupler le H-index et le jeu de données Google Scholar à travers cet outil qui a un nom intéressant, Publish or Perish, donc le fameux POP, et qui a eu deux effets. Le premier, c'est de populariser l'algorithme H-index, qui a largement contribué au succès de cet algorithme. Mais l'autre chose, c'est qu'en permettant à toute personne possédant un PC de faire des requêtes sur soi-même, sur des collègues ou des candidats dans des situations d'évaluation, a développé ce qu'on pourrait appeler la bibliométrie à la maison. Et donc là, le cercle des pairs, ce sont toujours les mêmes. Mais d'une certaine façon, ces pairs deviennent beaucoup plus potentiellement des utilisateurs d'indicateurs bibliométriques sans forcément comprendre ce qu'ils font vraiment, sans forcément les connaître aux grandes dames des scientomètres. Mais encore une fois, là, on a une forme d'extension du cercle des pairs avec ce développement de nouveaux outils. Et parallèlement, on a une montée des formes d'archivage et des formes des coalitions d'acteurs en faveur du mouvement Open Access qui s'associe avec des développeurs de plateformes. Donc là, bien sûr, Paul Ginspark et tout ce qu'on connaît autour du serveur de dépôt ArchiveX. Donc pour archiver les différentes versions des articles au début, des articles de travail en physique, un des points importants là, c'était d'accélérer la circulation des textes. Et donc l'enjeu était de de faire connaître, les de rendre publiques des connaissances avant qu'elles soient validées. C'était bien l'enjeu de ce dépôt, c'est toujours un des enjeux. Et donc là, on a un mouvement qui fait que les répertoires de working paper, donc là c'est Archavix, mais vous avez beaucoup de choses en économie autour des serveurs REPEC, qui sont à la fois des choses qui se jouent avant la publication, des serveurs qui sont articulés à tout un tas de métriques et qui donc permettent de faire des formes d'évaluation des working papers. Et sur des serveurs comme le serveur REPEC, vous avez des économistes qui déposent leur papier sur REPEC, qui attendent un certain nombre de mois pour voir combien de fois ils sont vus, téléchargés, voire cités, et qui ensuite viennent voir un comité de rédaction d'une revue pour leur dire, vous savez, mon papier, il a été vu ou téléchargé tant de fois sur REPEC, peut-être que ça peut vous intéresser. Deuxième acteur très important dans ces questions, c'est Stephen Arnade, militant de l'open access, je pense, assez bien identifié, mais qui, me semble, a développé des choses qui sont assez peu connues et qui, moi, me paraissent tout à fait importantes dans ce que j'essaye de vous raconter. C'est qu'en tant que rédacteur en chef de cette revue, donc Behavioral and Brain Sciences, créée en 1978, il avait en fait répliqué un modèle d'une revue d'anthropologie qui s'appelle Current Anthropology et qui avait développé des choses qui ont été un peu enfin, sur lesquelles en fait des plateformes qui ont été montrées ce matin se fondent peut-être sans le savoir. C'est ce qu'on appelle l'open commentary, donc le commentaire ouvert. Et donc là, dans ce modèle, Arnade, dans cette revue, nous propose une forme d'évaluation par les pairs, mais qui n'est pas, on va dire, ce que j'ai entendu ce matin, le modèle traditionnel. Je suis désolé, il n'y a pas de modèle traditionnel. Faites l'histoire du single et du double blind, vous verrez qu'il n'y a pas de tradition. C'est très variable selon les domaines, selon les revues, les spécialités. Mais donc là, on a un modèle qui est le commentaire ouvert, où on envoie non pas à deux externes, mais à 8 personnes, à 8 évaluateurs en même temps. Current Anthropology, qu'il faisait avant, était sur 12 évaluateurs. Et donc, la question, c'était non seulement de recueillir plus d'avis, c'était de publier l'article avec les avis à la suite. On n'est pas dans le monde Internet, hein. Je suis en 1978, on est dans le papier. Et donc, autre point avec lequel ce modèle est contre, ce qu'on a entendu sur SJS, l'important, c'est absolument pas d'atteindre un consensus. C'est de donner au lecteur à voir ce fameux dissensus des avis, et d'assumer que la science est un monde agnostique. Et donc, c'est au lecteur de se faire son propre avis en lisant les différents points de vue qui sont développés à la fois par les auteurs de l'article, par les huit avis qui sont collés à la suite. Et donc, on est dans ce qu'Arnade appelait le dissensus créatif. Donc, c'est une forme qui me semble tout à fait intéressante, puisque là, encore une fois, pour rester sur mon argument, on est entre pairs. Mais le nombre des pairs, d'une certaine façon, en tous les cas, qui sont amenés à lire l'article en tant qu'évaluateurs, sont à la fois un peu plus élargis, et ils ne sont pas anonymes, ça c'est des questions qui ont déjà été, encore une fois, abordées. Je retraverse tout un tas de choses qui sont déjà vues depuis ce matin. Donc là, je bascule sur cette autre forme, qui est l'open peer review. Donc on en a déjà parlé ce matin sur différentes plateformes, donc qui là aussi existait bien avant les outils Internet, qui étaient tout à fait développés dans le modèle papier, qui sont encore présentes dans certaines revues papier. Là, je prends le cas de F1000 Research, qui est une plateforme où ce sont les auteurs qui sont eux-mêmes invités à désigner 5 évaluateurs. Donc vous avez le nom des évaluateurs qui est rendu public. Vous avez, je vais très vite puisque c'est des choses qui ont été développées sur d'autres plateformes, mais en gros, vous avez le nom des évaluateurs qui est public, leurs avis, le texte qui est lisible. Vous avez la réponse éventuelle des auteurs à ces différents évaluateurs qui est également lisible et rendue publique. Et puis, vous avez la possibilité pour des lecteurs de venir faire des commentaires, soit sur le papier, soit sur les évaluateurs. Tout ceci va en fait avec d'autres formes de métriques. C'est là que je veux en venir, avec une revue notamment dont on a parlé beaucoup, et donc des acteurs qui sont derrière, qui sont les acteurs qui sont autour de Public Library of Science, donc de PLOS, qui dès la sortie, deux ans après la sortie de PLOS One, ont considéré que l'évaluation des articles et des auteurs ne devait pas résider dans une sorte de comité en chambre de spécialistes restreints qui, eux, qui étaient détenteurs du savoir et de l'expertise pour savoir si c'était bon, mais qui estiment que la valeur de l'article, encore une fois, ne réside pas dans le nom de la revue, mais réside dans la valeur qui va lui être attribuée après la publication. Et donc, on a cette notion de post-publication peer review qui a été largement développée, et donc avec des métriques qui sont ajustées à l'article. Il y a donc article level metrics, où il y a tout un tas de mesures que des acteurs comme PLOS ONE développent, à la fois contre le facteur d'impact, puisqu'on n'est pas à l'échelle de la revue, et encore une fois, en écart avec des métriques qui sont sur les auteurs comme le H-Index ou d'autres. Donc la valeur, c'est l'article, c'est ce niveau qui importe. Donc vous avez une palette d'indices qui sont proposés pour chaque article mis en ligne sur la plateforme PLOS ONE. Vous avez des mesures de citation qui sont articulées à différents jeux de données, donc avec Scopus, le WOS, là vous avez PMC, vous avez tant de choses, donc des mesures de citation classiques, mais vous avez une prégnance des mesures d'usage, avec nombre de vues de l'HTML ou de téléchargement du PDF, mais également tout un tas de gestes académiques, nombre de likes sur Facebook, nombre de tweets, nombre d'amis académiques dans des réseaux sociaux, ResearchGate, Academia, qui ont fait référence à ce papier. Et dans ce modèle-là, vous avez donc tout un tas de choses qui sont agrégées, un panier de mesures agrégées, dont l'enjeu est en fait, et c'est ce que défendent ces acteurs, c'est d'approcher l'impact total de l'article. Et donc, ce n'est pas de se focaliser sur une des dimensions qui est listée là, c'est à travers cette mesure, la tentative, c'est d'approcher l'impact total d'un article qui serait l'agrégation générale de l'ensemble de ces gestes. Alors, avec ce développement des mesures alternatives ou des mesures spécifiquement dédiées aux articles et non plus aux revues, vous avez des études comparatives, notamment en scientométrie, qui comparent justement est-ce qu'un article qui est tweeté un certain nombre de fois va avoir plus de citations. Donc vous avez tout un tas de choses intéressantes. Donc je ne développe pas là-dessus, il y a beaucoup de critiques également, hein, autant qu'il y a des critiques sur le facteur d'impact, le H-index ou autre chose. Vous avez toujours des pratiques de triche, et donc là, sur les altmetrics, vous pouvez tout à fait faire appel aux services d'opérateurs humains ou non humains, hein, des algorithmes, hein, qui vont cliquer toute la journée pour faire du view, du tweet, du download de votre papier, donc on a des choses qui sont effectivement possibles. Ce qui m'intéresse ici, dans ce modèle, c'est qu'en plaçant la valeur, non pas dans la certification préalable par des pairs qui jugent en chambre, on transforme en fait le lecteur. Et on le transforme non pas seulement en une forme de public tout à fait diversifié. Vous avez des gens qui lisent, vous avez des gens qui téléchargent, d'autres qui partagent, d'autres qui likent, d'autres qui tweetent, certes. Mais avec tout ça, vous fabriquez en fait une nouvelle instance pour le lecteur. C'est lui qui devient le valideur de ce qu'on lui propose. Et donc, on a un basculement de l'instance de validation qui n'est plus dans, encore une fois, quelques pairs, mais dans l'ensemble des lecteurs qui peuvent être bien sûr des chercheurs qui lisent et qui font tous ces gestes, mais d'autres gens, des journalistes, des lycéens qui sont servis de PLOS ONE pour, par exemple, mettre au point un test de cancer du pancréas récemment. Et dans ce moment, vous avez d'autres choses, puisque donc là, vous avez la fameuse rosace multicolore qui va vous dire, grâce, en gros, si vous avez un article qui est énormément tweeté, il va être tout bleu. Donc vous avez ce genre de badge visuel qui vous permet d'avoir ce genre de choses, ou ce genre de métrique qui est fondée sur des comptages assez simples est actuellement articulé à un autre mouvement dont peut-être vous en avez parlé hier, mais je n'ai pas encore entendu depuis ce matin, c'est l'attribution de numéros d'identifiants permanents pour des individus, donc auteurs, relecteurs, évaluateurs, et donc des identifiants digitaux individuels permanents qui attribuent un numéro. Donc à la base du mouvement, en gros, c'est faire face à l'homonymie entre Mary Smith et Mary Smith. Comment savoir quels sont les articles qu'elle a publiés ? Donc vous avez ce mouvement-là, mais vous avez un moment d'interopérabilité des bases de données qui articule en gros les deux colonnes et qui vous donne ça. Où en fait, en haut à gauche, vous avez votre numéro d'identifiant, et qui va s'articuler à tout un ajout de données pour savoir s'il est tweeté, liké, facteur d'impact et tout ce que vous voulez. Et donc, dans le même mouvement de transformation de lecteur en valideur des contenus scientifiques, on a une sorte de transformation aussi des contributeurs qui, certes, vont bénéficier des nombreuses données disponibles et combinables pour fabriquer leurs arguments, pour publier, pour acquérir de la reconnaissance, mais qui éventuellement, l'avenir nous le dira, peuvent, dans un modèle très foucauldien, devenir les victimes potentielles de ces technologies qui facilitent bien évidemment le contrôle et la surveillance. Merci.
Bravo.
Oui. Merci. Alain Caraco, Université Savoie-Mont-Blanc. Je trouve que la présentation que vous venez de faire me fait beaucoup penser à ce qu'on fait en matière de développement critique du PIB. Le PIB, c'est un indicateur unique, c'est extrêmement pratique et ça cache des tas de choses. Et on ne sait pas le remplacer par un indicateur unique. Et là, on est dans une situation comparable.
Donc merci, effectivement on a une situation comparable et encore une fois, donc j'avais que 15 minutes, mais si je vous refaisais la configuration du facteur d'impact, ça dépend excessivement des milieux. Et donc vous avez des configurations comme à l'INSERM par exemple, on ne jure que par le facteur d'impact, et encore une fois que si on est premier ou dernier dans la liste des auteurs, vous avez des configurations, c'est un des indicateurs possibles qui va être mobilisé selon, encore une fois, les situations, et dans d'autres où c'est quelque chose dont on ne veut surtout pas entendre parler.